Pour commenter l'actualité, c'est mercredi aujourd'hui. Jean Devaux se joint à nous. Bonjour, Jean.
Bonjour, Robert. Ça va bien?
Ça va bien? Ça va bien? Tu continues à suivre ce qui se passe du côté des États-Unis?
Ah, ben écoute, il n'y a pas un meilleur téléroman que ça. Écoute, quand on dit que la réalité dépasse la fiction, la preuve est faite, là.
Okay? Incroyable, quand même, hein?
Ouais,
là, écoute, il paraît que les jeux sont pas tout à fait faits encore pour Donald Trump, qui a encore des chances de remporter la victoire. On verra bien. Tu t'y retrouves, toi, dans l'histoire des grands électeurs?
Oui. Je connais bien le système électoral américain. Et le système électoral américain, Robert, hein, c'est un micmac épouvantable. Il y a tellement... Chaque État a des règles différentes. Les grands électeurs, bon, ça, c'est un système qui, proportionnel à la population, il y a un certain nombre de personnes, de grands électeurs qui se réunissent à Washington, okay, et qui élisent finalement le président, mais ils sont obligés, dans la majorité des États, ils sont obligés de suivre, OK, le candidat qui a eu le plus de votes. Mais il y a des États qui vont au pourcentage, il y en a trois, entre autres, qui vont au pourcentage. Et il y a des États, écoute, c'est totalement loufoque. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Dakota du Sud. Okay, il y a certains États où il y a une égalité, ils tirent ça à Tato Beach.
Ah oui?
À 430 sous. À 430 sous, c'est pas des farces, là. Tu sais, tu regardes ça, là, tu dis, écoute, on est en 2020, là, dans le temps des cow-boys, c'était correct, là. Master, là. Pourquoi, Robert, l'investiture du président, c'est pas au mois de janvier?
Je ne sais pas.
C'est parce qu'à l'époque, celui qui était en Californie, ça y prenait 2 mois sans ligne. C'est juste ça. Il fallait que tout le monde soit présent à Washington pour l'investiture, et ça, on peut le comprendre. Uh-huh. Okay? Mais avant les chemins de fer, ça prenait 2 mois sans venir à Washington.
OK, oui.
C'est juste pour ça. Il me semble que ça, là, on pourrait aujourd'hui dire avec les moyens qu'on a, on peut-tu le faire signer là, la semaine d'après, là?
En tout cas, ce sera à suivre, hein, et tu as bien raison. Nous autres aussi, on a notre téléroman, ici, du côté d'Ottawa et de Québec. Tu vois, les partis d'opposition de ce temps-là qui se tirent des roches à Québec, on est en train de dire que l'opposition actuellement tire le Québec par en bas en incitant les gens à la grande déprime, quasiment à la désobéissance civile. Je ne sais pas si tu as entendu Mme Guilbeault le dire.
Oui.
Et ce que les partis d'opposition demandent, Jean, finalement, c'est un peu plus de transparence.
Moi, je te dirais que la transparence, j'ai fait des commentaires ce matin ailleurs à ce sujet-là aussi. Ce que je te dirais, la transparence, le gouvernement ne pourra pas en donner autant qu'on en veut. Sais-tu pourquoi, Robert?
Non.
Parce que le système ne le permet pas. Le système de santé et d'éducation, là, on le voit, c'est tout croche. Ça marche tout croche. Dans les CHSLD, on a vu ce qui nous est arrivé. Pourquoi c'est pas arrivé ailleurs? Parce que notre système est tout croche. C'est pas une question d'argent. C'est une question de système. Et je ne pense pas qu'ils sont capables d'avoir toutes les données qu'on leur demanderait. Ils sont pas capables. Tout simplement. C'est sûr que de le dire officiellement, dire, écoutez, on est trop niaiseux pour être capable d'avoir toutes les données à temps, c'est un aveu, là. C'est un aveu qu'ils ne sont pas prêts à faire.
Ouais, le parti d'opposition demande qu'ils prennent des notes. Prenez des notes et tentez de séparer le politique du médical. Moi, je trouve que ça fait plein de sens comme demande.
Ben moi, je trouve que séparer le politique du médical, c'est déjà là. Il s'agit juste de continuer. Écoute, on se raffine quand même, là, depuis le début de la pandémie, là. Mais tu sais, c'est pas normal, exemple, qu'on ait des morts chaque jour qui datent de 2 semaines. C'est ridicule. T'sais. Donc, je me mets à la place des gens de la santé publique qui essayent de planifier des choses pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Et quand t'as à peu près la moitié des résultats qui t'arrivent par fax, qui sert de ça, un fax? Tu comprends ce que je veux dire? Le problème du gouvernement, là, je pense qu'il est systémique, c'est que le système de la santé, c'est à peu près un des plus mauvais systèmes en termes d'organisation au Québec. Et la même chose au niveau de l'éducation. C'est pas normal qu'au Québec, surtout à la deuxième vague, nos enfants puissent pas avoir la possibilité totalement, et s'ils veulent, d'avoir l'école à distance. On a eu tout le temps de se préparer, là. On l'est pas encore prête. C'est ça. On n'est jamais prête. Puis dans les autres provinces, ils sont prêtes. Dans les autres provinces, ils le font. Je comprends pas. T'sais. Donc, après cette pandémie-là, j'espère que tout le monde va être de bonne foi, autant l'opposition que les gouvernements. On va s'asseoir. Puis écoute, là, la preuve est faite que notre système d'éducation, puis notre système de santé, je m'excuse, là, mais arrêtons de nous péter les bretelles, là, c'est pas cher d'attendre, là. Si on le compare aux autres. Ouais. Il faut être réaliste, puis il faut le dire. Là.
Puisque tu parles de ces deux systèmes-là, qu'est-ce que tu penses de tous ces syndicats actuellement, grands renforts de campagne de publicité, qui viennent en onde dire au gouvernement du Québec, arrêtez de faire la sourde oreille. Écoutez-nous, assoyez-vous. Il faut négocier, il faut que les affaires changent. Est-ce que tu penses que c'est correct de faire ça maintenant, alors que Québec a une grosse, grosse pression à régler la pandémie?
Disons que le temps est mal choisi et le gouvernement a donné des munitions à tous ces syndicats-là à cause de la désorganisation systémique qu'il y a dans le système de la santé. Ça l'a fait en sorte que ça a augmenté les récriminations des syndicats. Ça, on peut le comprendre. D'un autre côté, les syndicats, en temps de pandémie comme on a aujourd'hui, devraient peut-être mettre un petit peu d'eau dans le vin. Il n'y a pas rien qu'une question de salaire, une question, puis ils disent eux-mêmes, une question d'organisation du travail. Mais si tu prends exemple la pandémie actuelle, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour les infirmières, on le sait, là, en termes de prorata au Québec, on est la première sous le plus d'infirmières pour la population, sauf qu'ils ne travaillent pas, ou ils travaillent à temps partiel.
C'est 50%.
Donc, si on réengage les infirmières à temps plein, là, la façon que le système fonctionne, c'est de dire, ben écoute, t'es de jour ou t'es de nuit. Est-ce qu'on pourrait, exemple, s'assurer avec les syndicats, dire, écoutez, là, on est en pleine pandémie, est-ce qu'on peut faire un système, là, pour, mettons, 6 mois, 1 an, moitié-moitié, tu fais moitié jour, moitié nuit? Ou 1, 3, des choses. Tu sais, il faut être imaginatif, là. Il faut arrêter d'appliquer les mêmes recettes syndicales et les mêmes recettes patronales quand on est en pandémie. Il faut s'asseoir. Tu sais, la semaine passée, là, quand j'ai levé le ton un peu, c'est ce que je disais, là. C'est que les corporatismes, là, autant syndicaux que des spécialistes en médecine, que le gouvernement a des corporatismes, lui aussi, là. Tu sais, il n'est pas mieux que les autres. Il faut mettre ça de côté. Là, il faut parler. Tout le monde ensemble, avec les yeux grands ouverts, puis pas d'œillères, là. Il faut trouver des solutions originales pour un problème qui est nouveau, là, c'est clair, là. Mais moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas dire aux infirmières, par exemple, écoutez, là, on a un problème de pandémie, on rouvre un paquet de postes à temps plein, on ajuste les salaires, parce qu'on est quand même, salaire, paraît-il, proche de s'entendre sur les salaires, c'est l'organisation du travail qui fait problème, et là, on va être pendant, je sais pas, moins 6 mois, 2 semaines, de jour et de nuit, ou une semaine de nuit, 3 semaines de jour. Si tu me suis, essayez de donner un peu de latitude. Mais là, on applique les conventions collectives rigides qui ont lieu quand le système n'était pas sous pression. Ben, c'est sûr que ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin d'un cours en organisation là, pour comprendre ça. Ça ne marchera jamais. Et tant que les deux côtés, chaque côté de la table, vont se parler comme des chiens de faïence, ben, ça ne débloquera pas. Tu me suis. Et ça, c'est la faute du gouvernement de ne pas passer ce message-là autant dans la population qu'aux syndicats et aux corporations médicales. Écoutez, ça, là-dessus, le gouvernement Legault a failli, il faut le dire. Là. Les corporations médicales, comme les corporations syndicales, on leur laisse pas mal la patinoire. Ben, c'est au gouvernement à essayer de se servir de l'opinion publique. Puis, écoute, il y a plein de monde qui pense comme moi et comme toi, là. On n'est pas tout seul, là. Donc, ces gens-là, là, ils sont capables de mettre de la pression indirectement sur ces corporations, tant syndicales que médicales, pour que ça bouge plus vite puis que ça aille mieux. Même chose au niveau de l'éducation, au niveau des profs. C'est pas normal que l'enseignement ne soit jugé maintenant, la qualité d'un enseignant ne soit jugée que sur la seniorité. J'en ai connu, moi, des enseignants tata qui enseignaient depuis 25 ans. Mais si un jeune qui arrive, puis qui est meilleur, puis qui est spécialisé en plus dans cette branche-là, on peut-tu le prendre? Il faut prendre le tata, là. Tu sais, tu me suis, c'est ça.
Qui... Je te suis. Hey, je vais t'amener maintenant sur, parce que tu es un gars de développement économique, sur le dossier GNL Québec à Saguenay. Ça va?
Oui.
Donc, là, il y a les audiences du BAP actuellement. La ville de Latuc a donné son accord à ce projet-là, parce que le projet passe, entre autres, sur le territoire de Latuc avec des retombées économiques importantes. Le maire nous parlait hier d'à peu près 10 millions de dollars par année pendant 25 ans. C'est pas négligeable. Sauf que lorsque je vois aller, ce sont les environnementalistes au Québec qui viennent dire « ça n'a pas de bon sens ». De faire un projet comme celui-là, hyper polluant, ça n'a pas d'allure, ce n'est pas la filiale qu'il faut exploiter. Qu'en penses-tu?
Écoute, vraiment, c'est un problème qui est complexe, OK? Il faut s'entendre là-dessus. Te dire, moi, j'ai des gens qui sont impliqués, là, que je connais bien, des gens d'affaires qui sont impliqués, là, et qui sont impliqués des deux côtés. J'ai des gens qui sont pro-GNL, que je connais très, très bien, qui sont très intelligents, puis j'ai des gens anti-GNL, que je connais très, très bien, qui sont aussi très intelligents. Donc, les deux côtés ont des pour et des contre, et c'est une affaire qui est super complexe. On regarde au niveau du fleuve, les Bélugas, ces choses-là. Bon, là, on a amené une suggestion de faire un pont. Ça leur enlèverait 40 000 passages de bateaux. C'est quand même pas rien, là, tu sais. Il nous manque, paraît-il, deux rapports, OK, des gouvernements en termes d'environnement qui devraient sortir en 2022, je crois. Est-ce qu'on serait peut-être mieux d'attendre ces deux rapports-là avant de décider finalement, parce que c'est pas à un an ou deux près, même si ça fait longtemps que ça traîne, là. Écoute, c'est complexe. Moi, personnellement, je suis assez vert, OK, en termes de développement durable. Mais d'un autre côté, il y a l'économie aussi. Il faut s'arrêter des régions comme la Tuque, des régions comme le Saguenay. Écoute, c'est des régions qui ont besoin d'emplois, donc faut pas non plus... Les Verts ont souvent la mauvaise habitude d'être très, très drastiques. Je pense que là, il faut essayer de trouver une solution qui peut protéger, au moins en partie, la faune qui est, entre guillemets, en danger. Et il faut aussi permettre le développement économique des régions. Puis les régions, on s'entend-tu, là, que le développement économique va toujours être basé sur les ressources naturelles, là, après ma barre. Quand tu t'en vas, là, au lac Saint-Jean, quand tu t'en vas dans la Côte-Nord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du bois, il y a des terres, il y a des minéraux, tu sais. C'est basé à la base sur les ressources naturelles. On n'a pas la même économie en région qu'on a à Montréal ou à Québec. Puis si tu regardes les Verts, c'est souvent des Montréalais ou des Québécois ou des gens qui viennent de zones urbaines plus denses. Mais en campagne, on comprend ce problème-là. Là. On le vit, on veut des jobs, puis oui, c'est sûr qu'on veut pas juste des jobs dans le secteur primaire puis des ressources naturelles, mais ça commence par avoir la matière, puis après ça, on pourra développer au deuxième niveau le secteur secondaire puis le secteur tertiaire.
Moi, je pense sincèrement... Il ne faut pas être hypocrite parce que du gaz naturel, on en consomme quand même pas mal
au
Québec.
Ben oui.
Et puis, te souviens-tu, je ne sais pas qui me parlait de ça, je pense que c'est hier, le maire de la Tuque disait, vous souvenez-vous là des blocus amérindiens où on a eu une pénurie de gaz à un moment donné, ben c'est parce qu'on était plus ou moins... vous avez vu là qu'avec cette histoire-là, on s'est trouvé bien peiné. Alors, on verra bien pour la suite des choses.
Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Puis, écoute, il y avait encore un excellent article dans je pense, c'est une nouvelle liste sur la presse plus ce matin, je ne me souviens plus, que j'ai lu. Et je pense qu'il manque un ou deux rapports, OK, qui sont presque prêt. Moi, je pense qu'on pourrait au moins se baser, là. Après ça, là, les rapports du BAP, les deux rapports, autant du fédéral que du provincial, qui sont à sortir bientôt, là, on s'assied tout le monde ensemble, puis on essaye de trouver une solution. Mais moi, selon mon avis, je pense que les ressources naturelles de la région, il faut les développer.
Je vais t'amener
Faut le faire avec le moins d'impact.
Je vais t'amener sur un autre sujet, plus sensible celui-là. C'est quand même assez surprenant de voir comment est-ce que la justice, elle est appliquée au Québec, entre autres. Puis là, je vais t'amener sur l'histoire d'Éric Lapointe, qui a eu son absolution. Il n'y aura pas de casier judiciaire. Il va pouvoir voyager aux États-Unis. Probablement que sa réputation va être en partie lavée, puis il va continuer à faire des spectacles, puis ses fans vont continuer à acheter des billets de spectacle quand ils vont pouvoir retourner dans les salles. Ton point de vue sur la façon dont on a traité ce dossier-là et le message qu'on envoie dans la population?
Moi, je trouve ça épouvantable, personnellement. Là. Que tu sois Éric Lapointe, que tu sois Tartampion, ou que tu sois un politicien ou un simple citoyen, si tu as commis une faute vis-à-vis le système de justice, si tu es jugé coupable, ben tu es coupable. Tu n'es pas à moitié coupable. T'sais, on ne peut pas être à moitié coupable ou coupable. Tu es coupable ou tu ne l'es pas. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un puis à moitié confiance. C'est un ou l'autre. Ça, c'est la même chose. Moi, personnellement, ce genre d'entente-là, ça me lève le cœur. Je le dis, là, ça me lève le cœur. Si, écoute, selon ce qu'on dit, là, selon ce qui a été publié dans les journaux, je n'invente rien, il y aurait pris des jeunes filles par le cou et la remonter sur le mur, ou à peu près, là.
Oui.
Je m'excuse, là, mais tu l'as jamais fait pour moi non plus. Tu sais, à un moment donné, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça, puis je me dis que si tu fais une faute, sciemment, c'est pacté, là, ben, c'est parce que tu t'es pacté. Il n'y a personne qui t'a mis dans le gosier, là. OK, tu le bis toi-même, le liquide, OK? Mais si tu t'es mis en état d'ébriété, bien, va avec tes conséquences. C'est la même chose au niveau de la conduite automobile en état d'ébriété, là. J'ai pas de break pour ça, Robert. Je m'excuse, là. Je peux sembler sévère, là. Il y a les fans d'Éric Lapointe. Écoute, sa musique est très bonne. Je l'aime, moi aussi, Éric Lapointe, là. Mais je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un est musicien puis qu'il gagne sa vie en faisant de la musique de temps en temps à bord de nos frontières qu'il faut lui donner un break.
C'est ça. Moi, c'est ce 3 000 $ d'amende. 3 000 d'amende.
Non, c'est ridicule. Non, mais sur mon avis, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Et on parle des gens qui ont quand même un certain... pas un mépris, mais tu sais, on se fout à ce un petit peu du système de justice. Pourquoi? à cause de ça. On prend l'exemple là, d'Éric Lapointe. On parle de Mme Normandeau, quoi, là, de 3 semaines. On parle de l'UPAC. On regarde tout ce qui se passe dans le système de justice, avec tous les dérapages qu'il y a, avec toutes les briques que les gens se donnent. On parle juste des problèmes avec la DPJ, le niaisage des parents avec la petite fille qui s'est fait tuer là, au printemps. Je veux dire, sacrifice, tu sais, mais ça, je sais pas. Là. Ça pourrait-tu aller plus vite? Là? Puis ça pourrait-tu être plus pénible pour les gens qui causent des... qui détruisent des vies, là. Moi, là, le docteur Turcotte, là, Guy Turcotte, je l'ai pas encore digéré, là. M'excuse, là, je ramène des vieilles affaires, là. Ouais. Mais je veux dire, je trouve que ça n'a pas de sens, notre système de justice, quelquefois. Tu sais, à un moment donné, là, faut que tu sois responsable de tes actes. M'excuse, là. Puis, écoute, je comprends pas. Je comprends pas qu'un juge, puis je lisais les commentaires du juge hier, là, ah, puis là, il a l'air à vouloir se remettre sa traque, le petit gars, puis c'est ci, puis c'est ça, puis ben, tant mieux qu'il se remette sa traque. Il faut qu'il paye pareil. C'est ça. Si tu me suis, moi, en tout cas, moi, c'est ce que je parle.
OK. Hey, un autre sujet, le Bloc québécois qui va présenter une motion demain jeudi. La motion vise à ce que la Chambre des communes réclame des excuses du premier ministre Justin Trudeau pour l'arrestation des Québécois pendant la crise d'octobre en 1970. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'ils ont raison de revenir à la charge là-dessus? Est-ce que tu penses que le premier ministre du Canada va dire « Oui, oui, j'ai envie de m'excuser au nom de tous les Canadiens de mon pays? »
OK. Justin étant le fils de Pet, je pense pas qu'il fasse ça. Okay? On s'entend. Je pense pas. Il est vraiment la copie carbone de son père. Là. Quand il s'agit d'écraser les Québécois là, qui sont un petit peu plus autonomistes, là, les Trudeau nous ont prouvé là, qu'il y avait vraiment là, le taux là, de se foutre pas mal de notre gueule. Okay? Mais ceci étant dit, moi, je pense que... Écoute, il s'est excusé à peu près à tout ce qui bouge. Hein? Que ce soit les Autochtones, que ce soit les pensionnats, que ce soit les religieux, que ce soit encore Némite, puis pas son temps broyé à l'écran. Là. Je pense que la crise d'octobre, puis moi je m'en rappelle un peu, je n'étais quand même pas vieux, mais je m'en rappelle un peu, je trouve que ça mérite des excuses, parce qu'il y a quand même au-delà de 500 personnes qui ont été arrêtées sans mandat, plusieurs pendant des journées, sans... puis ils ont été relâchés là, comme si rien n'était, mais pas notre... il n'y avait rien fait. Là. Je pense que, juste dire, on a peut-être poussé le bouchon un peu loin. Tu sais? Il me semble que ça ne coûtait rien, ça calmerait les esprits de tout le monde. Pourquoi le Bloc québécois et souvent les souverainistes purs et durs se pondent vite comme ça? C'est parce que le peu de choses minimum qui manquent, ils sont toujours dit non. T'sais, ça a pris combien de temps avant que le fédéral dise du bout des lèvres, M. Harper, là, qu'on était une société distincte au Québec? Mais on s'entend-tu que c'est pas mal au Canada, moi, elle l'a fait pas mal, là. On est pas mal distincts au Québec, là. M'excuse, là. Mais tu sais, si tu te promènes, là, faire les, toutes les provinces canadiennes, puis le Québec, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui ressort, là.
Il y a un auditeur qui veut nous parler. On peut le prendre?
Ben oui, vas-y.
Oui, bonjour, Gino.
Salut, M. Pilote. Moi, c'était juste pour vous dire que, à peu près une trentaine d'années, j'ai été condamné à 10 jours de prison pour une truite que j'ai pêchée, pas de permis.
Je peux comprendre que tu es frustré ce matin, Gino. Ça, je peux comprendre ça. Okay?
Ben là, je me demandais, là, c'est à cause que dans le temps, j'étais sur le bien-être et que j'avais pas d'argent, là, tu sais, je sais pas, là.
Mais on veut savoir les circonstances entourant la pêche à la truite. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pêché à dynamite ou quoi?
Non, ben j'ai... À ligne, j'avais pas de permis, mais j'ai fait 8 heures. J'ai été condamné à 10 jours, mais j'ai fait 8 heures. La prison de Trois-Rivières était trop pleine.
Ouais.
Okay, ça doit être parce qu'elle pesait plus que 3 livres, Gino. Ça doit être ça. Non, écoute, c'est ridicule. Puis, écoute, je comprends parfaitement ta frustration suite à ce qui s'est passé hier avec M. Lapointe.
Vous excuser à toutes les... D'abord, plaider coupable et vous excuser au nom de toutes les truites du Québec que les Québécois vont pêcher éventuellement dans le futur. Et probablement, vous auriez eu l'absolution. Avez-vous un casier criminel?
Non. J'ai pas eu de casier criminel. Mais, je veux dire, quand j'ai demandé pour avoir ma face card et mon pour passer les douanes, là, admettons que ça paraissait un peu, mais là, quand ils ont vu que c'était pour une truite, ils ont décidé de faire une ligne là-dessus.
Bon, ben merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous autres.
OK. Hey, pas de trouble, M. Pilate. Bonne journée.
À bientôt.
OK, bye.
Non, mais c'est certain, Jean, que si tu vas fouiller dans les annales judiciaires au Québec, tu vas en voir des histoires qui n'ont pas d'allure comme ça, là.
Non, mais excusez, tu regarde, là. Juste, je pauvre monsieur-là, ce qu'il a vécu, là, on s'entend que pêcher pas de permis, c'est pas correct, là. Faut avoir notre permis, puis on s'entend là-dessus, là. Ce que je veux dire, c'est que juste que ça a coûté en termes de frais judiciaires, probablement, toute cette histoire-là. Juste ça, là. Mettons, hey, là, le monsieur en question qui se fait pogner pour faire ça, là, tu dis, écoute, fais donc 10 heures de travaux communautaires, puis on n'en va plus.
C'est ça. Hey, parlant de travaux communautaires, de gens qui voulaient à l'encontre des règles au Québec, les propriétaires de gym qui renoncent finalement. Alors, ils devaient ouvrir leurs portes demain, mais Québec a décidé de serrer la vis. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Ben quoi, si je peux t'en parler, parce que je ne suis pas sûr, mais ma conjointe est copropriétaire du gym à Louisville. Donc, écoute, c'est sûr que c'était pour eux autres là, une semaine assez mouvementée. Les clients ne savaient plus sur quel pied danser, eux autres non plus. Écoute, je pense que les règles sont trop strictes, c'est mon avis. Je pense que les gyms et les restaurants aussi là, auraient besoin d'un break. Je pense qu'il n'y a pas eu d'éclosion vraiment dans ces deux types d'entreprises-là. La pandémie va durer plusieurs mois, tout le monde est d'accord là-dessus. Il va falloir que le gouvernement donne un lousse, définisse des nouvelles règles pour qu'on puisse ouvrir les commerces comme les gyms, les restaurants. Et si le gym ou le restaurant ne se conforme pas et il y a des éclosions, ben là, il sera fermé. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais les gens ont besoin. Je regarde la clientèle qui vient là, chez ma conjointe, là. Des gens qui viennent tous les jours. C'est souvent le seul côté social dans leur vie quotidienne. Pour eux autres, c'est important. Il y en a qui s'entraînent des 15 heures par semaine, 20 heures par semaine. Il y en a, c'est un mode de vie, là.
Ah oui.
Vraiment. Et ces gens-là, sérieusement, là, je le voyais là, chez eux, là. Ils respectaient toutes les normes. Tout le monde se promenait avec son masque entre les appareils. Ils désinfectaient les appareils. Ils n'ont eu aucune éclosion. Même chose les restaurants, là. On commence à dire qu'un mètre et demi dans les restaurants, ça serait probablement la norme à avoir. Est-ce qu'on peut se pencher là-dessus rapidement? Si on met ça à un mètre et demi plutôt que deux mètres là, dans les restaurants, si tout le monde garde les masques en se promenant dans le restaurant puis qu'il l'enlève quand il s'assoit, il y a 85% des restaurants qui sont capables d'être à pleine capacité. Donc, ça pourrait changer la donne. Oubliez pas, là, on est pogné avec ça jusqu'au mois de mars, là.
Ah oui, oui, hein, facile. Hein.
Donc, si on donne pas un lousse, si on donne pas un lousse, là, comme ma mère disait dans le temps, le couvert du presto va sauter. T'sais, à un moment donné, il faut donner du lousse. Puis, il commence à avoir des impacts. C'est documenté, puis on le sait. Des impacts autant psychologiques, pas rien qu'économique, psychologique aussi. Tu regardes les ados, là. Les ados sont complètement démolis, je te dis.
Tu vois, le gouvernement du Québec, M. Carman, a annoncé aujourd'hui un aide additionnelle de 25 millions de dollars pour aider à supporter ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Mais s'il donnerait un petit break au restaurant pour le gym, là, peut-être bien qu'il y aurait encore plus que le 25 millions qu'il vient de donner. C'est ça que je veux dire. Et à cause de la pandémie, à cause des nouvelles informations qu'on a, en tout cas, moi, je lis beaucoup ce qui se passe à l'international, là. En tout cas, au niveau de la restauration, avec les masques, comme on le faisait avant, c'est-à-dire que tu gardes le masque quand tu rentres, quand tu promènes, et tu l'enlèves quand tu t'assois à la table, pas plus que 4 ou 6 personnes, on semble dire maintenant que la nouvelle norme, c'est 1,5 mètre. Ben, 1,5 mètre, c'est pas mal mieux que 2 mètres, là. Tu sais, c'est 75% au lieu de 100%, et ça donne beaucoup plus de place au restaurant. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des restaurants. Ils n'ont eu aucune éclosion. Des restaurants qui marchent, là, qui ont du trafic. Les gens faisaient ça de façon consciencieuse. Le restaurant qui n'est pas correct, qui ne fait pas ça de façon... On se rappelle du restaurant Laval, où tout le monde là, était debout, ça chantait, puis ça dansait. J'ai allé à son permis pendant 3 mois. Ça finit là. On n'en fait plus. Mais pourquoi pénaliser toute la province au complet? Moi, j'étais un gars, tu le dis souvent, hein, j'aime la bonne bouffe, puis j'ai un tour de table qui te prouve. Je m'ennuie de ça, les restaurants, moi. Ça me manque. J'aimais ça, moi, aller au grill à Trois-Glacs, là, puis prendre mon bon filet mignon, tu sais, ou aller au poivre noir, tu sais. Ça me manque. Et je suis sûr que ces gens-là sont capables de gérer ça de façon à ce qu'il n'y en ait pas de danger. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, slacker la poulie un petit peu, là?
Jean, toujours un plaisir de t'entendre. Le mercredi sur nos ondes, c'est le moment de te laisser aller construire le Québec de demain. Encore.
On va essayer.
Du haut de l'entrepreneur que tu es, à bientôt.